VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. Le président Barack Obama bat campagne pour la candidate démocrate, son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a fait appel à son épouse Melania Trump pour brosser un autre portrait de lui que celui brandi comme un épouvantail par les démocrates. Les détails avec Anastasie Toudiech.
Barack Obama revient à la charge. Le chef de l'exécutif américain a déclaré devant une foule de partisans à Miami que pour lui, le candidat républicain Donald Trump est singulièrement non qualifié pour être président et qu'il est, de par son tempérament, inapte à diriger l'armée.
And if we win Florida, we will win this election. It is in your hands.
Si nous gagnons la Floride, nous gagnons cette élection, a assuré le président américain qui s'est rendu ensuite en Caroline du Nord, autre état décisif de cette présidentielle. Il faut dire que les milliers d'Hispaniques de la Floride soutiennent Hillary Clinton et qu'ils sont très remontés contre Donald Trump qui a promis d'expulser tous les sans-papiers. De son côté, le candidat républicain en Caroline du Nord jeudi continue de tirer à boulet rouge sur sa rivale. Pour Donald Trump, la candidate démocrate est engagée dans une entreprise criminelle en rapport avec ses emails et elle fera probablement l'objet d'une enquête sur plusieurs années.
Pour la première fois depuis le début de la campagne, Donald Trump a fait appel à son épouse Melania, Anastasie Toudiech.
Oui, Melania Trump s'est adressée aux partisans de son mari dans la banlieue de Philadelphie. Elle a promis, si elle devenait première dame, qu'elle ferait des femmes et des enfants sa priorité et s'engagerait contre le harcèlement dans les écoles. Et Madame Trump d'ajouter
« Our culture has gotten too mean and too rough. Especially to children and teenagers.
Notre culture est devenue trop dure et trop méchante et nous devons trouver une autre manière de nous parler. Deux sondages d'opinion publiés hier jeudi donnent un léger avantage à Hillary Clinton.
Merci Anastasie. Afrique de l'Ouest maintenant, Bénin. Sébastien Javon, ex-candidat à la présidence, est toujours gardé à la brigade territoriale de Cotonou. L'homme d'affaires béninois est en garde à vue depuis 5 jours après la découverte de 18 kilos de drogue dans un des conteneurs de sa société au port autonome de Cotonou. Ce vendredi, Sébastien Javon devrait soit être remis en liberté ou déféré à la justice. Rachidi Gbada Massi, député, ami et allié de Sébastien Javon, invite le chef de l'État béninois, Patrice Talon, à ne pas se laisser prendre au piège tendu.
Il y a absolument une main invisible qui tire sur la ficelle. Cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Javon. Ça, c'est clair. De même, j'ai la ferme conviction que M. Sébastien Javon ne peut jamais être impliqué dans une affaire de drogue.
Rachidi Gbada Massi, député, ami et allié de Sébastien Javon au Bénin. Au Nigeria, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête suite aux accusations de viol sur des femmes réfugiées dans des camps après avoir fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Réagissant hier par un communiqué, le chef de la police fédérale, Ibrahim Idriss, s'est dit très inquiet et a désigné une équipe spécifique pour mener une enquête discrète et impartiale sur ces accusations de viol. Le président Muhammadu Buhari s'est dit également inquiet et choqué. La sécurité des camps de réfugiés a été renforcée selon la police. En début de semaine, Human Rights Watch avait porté des accusations de viol et d'exploitation sexuelle perpétrées par des policiers sur des femmes qui ont fui les exactions de Boko Haram. L'ONG américaine dit avoir recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de déplacés autour de Maïdougouri. Elles affirment avoir été abusées sexuellement par des responsables de camps, des policiers et des soldats. Parmi ces femmes, 4 disent avoir été violées et 37 autres qu'elles ont été forcées d'avoir des relations sexuelles avec des responsables en échange de fausses promesses de mariage ou d'aide médicale ou financière.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, interdiction de toute manifestation à caractère politique jusqu'à nouvel ordre en RDC, alors que l'opposition a promis de tenir demain un meeting politique à Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est attendue dans le pays le 10 novembre pour tenter de faire baisser la tension. Moulegwa Zindoula, président du Centre d'études politiques et stratégiques et ancien porte-parole du président Joseph Kabila, en visite à Washington, pense que les ambassadeurs du Conseil de sécurité enfoncent une porte ouverte. Le chef de l'État congolais ne va pas briguer un troisième mandat, dit-il. On écoute Moulegwa Zindoula.
Non, mais le président de la République s'est déjà exprimé clairement à plusieurs fois en disant qu'il va respecter la Constitution, et c'est là le cas. Si vous parlez aujourd'hui de l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est la raison pour laquelle un dialogue politique inclusif souhaité par toutes les parties a été convoqué par la facilitation internationale conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, même le membre du Rassemblement souhaitait un dialogue et le président de la République a convoqué un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Moulegwa Zindoula, ancien porte-parole du président Joseph Kabila et président du Centre d'études politiques et stratégiques. Au Tchad, les étudiants n'ont toujours pas repris le chemin des universités 2 mois après la date officielle de la rentrée. Les enseignants observent la grève lancée par la plateforme de revendication syndicale. Guirayo Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et membre de la plateforme de revendication syndicale, fait des propositions.
Si les choses rentrent dans l'ordre avant le 15 novembre, je pense qu'au niveau secondaire, on peut décaler les examens et essayer de rattraper l'année scolaire 2016-2017. Mais au niveau du supérieur, ça serait un peu difficile. Est-ce qu'il y aura lieu d'étudier l'autre année qui n'est pas finie dans celle qui vient de commencer? Ou bien est-ce qu'il faudrait déclarer cette année blanche et repartir sur les nouvelles bases? Ça, c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Pour mettre fin à cette crise, il faudrait que les Tchadiens s'assiedent, ils analysent la situation et ils trouvent des solutions.
Guirayo Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur au Tchad. Le Kenya accuse l'ONU d'avoir cédé à la pression de certains pays pour rejeter la responsabilité des lacunes des casques bleus au Soudan du Sud sur leur commandant kenyan. Les précisions de John Lindon.
À la suite d'une enquête interne, le commandant kenyan de la mission onusienne au Soudan du Sud a été limogé pour sanctionner l'inaction des casques bleus lors des violences de Jieh à Djouba. En réaction, Nairobi a annoncé son retrait de cette mission où opéraient un millier de soldats kenyans. L'enquête de l'ONU a été menée avec un a priori et le général Johnson Ontieki a servi de bouc émissaire, selon Macharia Kamau, ambassadeur kenyan à l'ONU. Il a estimé qu'il s'agissait en fait d'un échec global. La responsabilité devrait donc être collective et s'étendre à la fois au commandement conjoint des unités des casques bleus sur place et à la direction du département de maintien de la paix à New York. Il a qualifié l'enquête onusienne de honteuse et injuste pour rendre responsable un seul individu. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a défendu la décision de Ban Ki-moon, soulignant qu'elle ne visait pas le Kenya, mais seulement le commandement de la force de l'ONU.
Bataille de Mossoul en Irak. Les troupes irakiennes ont renforcé leur position aux portes de la grande métropole du nord du pays, préparant l'assaut sur le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Le chef du groupe, Aboubakar al-Baghdadi, a exhorté ses djihadistes à lutter jusqu'au martyr. Jean-Roger Bion.
Dans le village de Gokjali, récemment repris aux djihadistes à la périphérie est de Mossoul, des camions transportant de l'artillerie et des combattants irakiens pour renforcer la ligne de front croisaient des civils fuyant dans le sens inverse. « Dieu merci, nous avons enfin réussi à échapper à ces cochons de Daesh », s'écrit un homme se présentant comme Mohamed. Il était perché sur un camion bondé de familles se dirigeant vers une zone sous contrôle kurde où des organisations humanitaires construisent des camps pour les déplacer. Les forces irakiennes dirigées par l'unité d'élite du contre-terrorisme, CTS, ont nettoyé les villages environnants et sont désormais positionnés à la périphérie de cette ville du nord de l'Irak. Par ailleurs, la teneur du nouveau message d'al-Baghdadi est interprétée par des analystes comme un signe clair de ses craintes croissantes de voir ses djihadistes fuir le champ de bataille au fer défection. Pour le Pentagone, le chef des insurgés est en train de perdre le contrôle de ses troupes.
Et pour terminer en Tunisie, le ministre tunisien des Affaires religieuses, Abdel Jalil Ben Salem, a été relevé de ses fonctions aujourd'hui au lendemain de ses propos faisant le lien entre le wahhabisme saoudien et le terrorisme. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.